Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à quelque chose que moi-même, je ne pratique pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, je voudrais nous encourager, moi compris, à quelque chose que je ne pratique pas assez. Je veux parler de la méditation. C'est un sujet très à la mode depuis quelques années, la méditation. Pour les gens de notre société, ça serait un peu comme un contrepoison, un antidote à la vie trépidante qu'on mène. Le rythme qui nous est imposé, et notamment par l'informatique, ne laisse pas de place pour le répit. Tout est dans l'immédiateté. Ça m'a beaucoup frappé il y a un an, deux ans, lors d'un repas de famille, où on discutait sur le sens d'un mot exact. Et j'ai eu la surprise, je n'étais pas encore familiarisé à l'époque, de voir mon fils sortir son téléphone de sa poche et en tapant trois trucs, me donner la définition sans avoir besoin de se lever de table. Voilà, c'est l'immédiateté. Tout de suite, la solution était là. Bon, ça, c'était pas forcément désagréable, mais il peut être parfois désagréable que tout de suite les choses soient là et qu'on n'ait pas le temps dans notre tête de prendre le temps de faire le vide, de faire tomber la pression. Et pourtant, comme on est très surchargé, la méditation paraît aussi consommatrice de temps. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt dans cette... C'est ce qui me gêne. Alors voilà, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est à moi-même que je l'adresse. Tu peux. Voilà. Et je voudrais vous parler de la méditation biblique. La méditation biblique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on peut comprendre ce mot biblique de deux façons différentes. La méditation est biblique parce qu'elle est décrite dans la Bible. Et elle est biblique parce que c'est la méditation de la Bible elle-même. Alors, j'aimerais vous encourager à la méditation et trouver des passages dans notre Bible qui nous encouragent à la méditation. Et je vous... Je vous lis le début du psaume 1. Je trouve très, très bien. Moi, j'aurais pas fait autrement si j'avais été Dieu. Non, excusez-moi. Mais je trouve que Dieu a bien fait de placer le psaume 1 là où il est. Parce que la façon dont les psaumes commencent nous encourage à lire la suite. Heureux l'homme. C'est un bon début, ça. Même si ça concerne aussi les femmes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Peut-être que je ne l'ai pas assez fait, c'est peut-être pour ça que mon feuillage s'est flétri. Dans ce psaume, pas de juste milieu. Il y a deux voies, celle des méchants qui mènent à la perdition. Si vous voulez vous en convaincre, lisez la suite du psaume. Et celle des justes. Alors, les méchants dans l'Ancien Testament, ce n'est pas nécessairement les gens violents. Ce sont ceux qui ne recherchent pas la volonté de Dieu. Et quelle est la voie des justes ? C'est justement de trouver leur plaisir dans la parole de Dieu. De la rechercher plus que des paroles humaines. De la méditer dans leur cœur. Ah, j'étais un peu effrayé quand j'ai lu ça. Qui médite sa loi jour et nuit. Je dis, mais et on dort quand ? Est-ce que c'est en permanence? Je crois que c'est plutôt l'idée que non, c'est pas au détriment de notre sommeil, mais c'est plutôt en dehors de tout moment officiel. C'est méditer sa loi, méditer sa parole, même quand le moment n'est pas prévu pour ça, même quand ce n'est pas le culte, par exemple. Même quand ce n'est pas le moment dans la journée où on avait prévu de lire sa Bible, c'est y revenir, y réfléchir. La comparaison qui m'est revenue, elle n'est pas très flatteuse, mais quand même, c'est une vache. C'est une vache qui rumine. Elle a mangé quelque chose, elle a tout englouti. Et puis, à ses moments perdus, elle rumine ce qu'elle a avalé. Et là, elle savoure. Elle dit, ça c'est bon cette herbe. Ça fait du bien ça. Sur le chemin du bonheur, on se régale de la parole de Dieu. Parce que la désobéissance commence dans les pensées. Quand on marche selon le conseil des méchants, Jésus l'avait dit à ses disciples, Matthieu 15, verset 18, « Ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. » Et on retrouve dans d'autres textes cette même pensée. Et ce texte de Josué, là aussi c'est le début du livre. Les instructions à Josué. On lui dit, ce livre de la loi, Josué 1, verset 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Encore la nuit, jour et nuit. Pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et le psaume 119, au verset 11, a cette belle phrase, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Alors, quelles sont nos occasions de méditation? Puisque nous sommes encouragés à le faire, quand pouvons-nous le faire? Et la première pensée qui nous vient quand nous pensons méditation, c'est que c'est un exercice solitaire. C'est quelque chose, c'est la façon principale de méditer. Méditer, c'est se donner du temps lorsqu'on lit la Bible. C'est s'arrêter sur un passage, c'est y réfléchir, c'est le tourner dans sa tête. C'est voir ce qu'il veut dire pour nous, ce qu'il appelle comme réaction de notre part. Alors, il a été fait ici la promotion de la lecture de la Bible en un an. C'est très bien, je ne suis pas du tout contre. Mais s'arrêter... Peut-être comme la vache de tout à l'heure. Ce qu'on a lu assez rapidement, parce que pour lire en un an, il faut aller vite, mais un passage, clac, revient à la mémoire. Et on y repense à un autre moment de la journée. Peut-être quand on est en train de faire autre chose. Ce sont des passages qui nous touchent, qui nous étonnent, qui nous interpellent, qui nous indignent parfois. Et qui vont susciter en nous le désir d'y retourner. Alors, sur quoi méditer? Alors, sur la Bible, comme cette brave dame là au pied de son arbre, sur la Bible, c'est la base, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais on peut méditer aussi, en lien avec la Bible, sur la nature elle-même. On l'a lu tout à l'heure. Ce psaume, les cieux proclament les merveilles de l'Éternel. Voir un coucher de soleil, voir un beau paysage, voir une forêt comme ça à l'automne, c'est aussi des choses qui peuvent nous inciter à méditer sur la grandeur de Dieu, sur la beauté de sa création, sur la beauté de son amour pour ses créatures. sur ses colères aussi à cette nature, peuvent nous enseigner quelque chose sur la véritable nature de Dieu. N'oublions pas que nous adorons un Dieu bon, juste, amour, mais aussi un Dieu qui peut être menaçant et qui peut être exigeant pour sa créature. Et nous l'oublions parfois. On peut méditer à partir d'œuvres humaines. Ça se fait beaucoup peut-être dans d'autres milieux que le nôtre, que de méditer sur des icônes, par exemple. Moi, j'ai un petit peu plus de réticence, mais l'art, la peinture, la musique peuvent aussi être des moyens qui nous incitent à la méditation. Et puis, j'ai mis un journal, parce que les événements de notre monde peuvent nous inciter aussi à réfléchir. À réfléchir. Où va notre monde? Où va notre monde sans Dieu? Mais sur ces différents points, je crois que tout ça, c'est en lien avec ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est par comparaison. Et puis, ce n'est pas la seule façon de méditer tout seul dans son coin. Il y a aussi en groupe. C'est d'ailleurs un peu ce que nous faisons là en ce moment, si vous êtes d'accord avec moi. En groupe. J'ai trouvé cette photo là. Et ce texte de Deutéronome que je vous avais déjà cité la dernière fois que j'étais ici, qui dit « Vous mettrez dans votre cœur et dans votre âme les paroles que voici. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux, entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos fils et vous leur en parlerez. » Quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dans ce texte, Moïse indique des moyens concrets pour se souvenir, écrire à des endroits stratégiques, enseigner à d'autres, c'est un bon moyen pour méditer. Parce qu'avant d'enseigner, il faut déjà creuser la chose. Hein, Cathy ? Je vois que Cathy fait un petit signe. En parler. Tous ces moyens servent à nous rappeler des textes, à nous en imprégner. On peut méditer en couple, en famille, en groupe, en église. C'est ce que Paul écrit aux Colossiens. Il leur écrit ça, Colossiens 3, verset 16. « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. » Ça, c'est le principe. Et comment réaliser ça? Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement et en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, sous la grâce chantez à Dieu de tout votre cœur. Là encore, la méditation est favorisée par des actes, par un partage. Et ce qui est mis en avant ici, c'est le chant. Combien de personnes, quand on entend des témoignages, nous disent qu'ils se sont éloignés du Seigneur et que parfois c'est les paroles d'un chant qu'ils avaient appris ou entendu lorsqu'ils étaient petits qui a été le premier élément qui les a ramenés vers le Seigneur. Mais aussi, pour des personnes qui ne sont pas éloignées, un chant peut être aussi une façon d'approfondir, de voir comment d'autres personnes ont formulé leur foi et se dire « Ah ben oui, on peut le dire comme ça. » Et ça peut nous ouvrir des portes. Alors, il y a aussi on peut se faire aider, il y a des bouquins. Je vous en ai amené quelques-uns. Alors, celui-là, la méditation biblique à l'ère numérique, c'est celui dont je suis parti, qui m'a donné l'idée de cette prédication. Voilà, un bon bouquin. Et puis, voilà, celui-là, on me l'a offert, Les liens de la liberté, 365 méditations. Il n'y en a pas pour les années bissextiles. C'est bien, c'est comme le calendrier. C'est bien, mais c'est la méditation de quelqu'un d'autre. Mais bon, pourquoi pas? Et ce livre qu'aime beaucoup Annie, qui s'appelle « Seul avec Dieu », Alors celui-là, je vous encourage à le compulser, parce que ce n'est pas la méditation de quelqu'un d'autre, c'est comment méditer, quels moyens, qu'est-ce qu'on peut employer, comment faire sa propre méditation. Ce bouquin, il est bien. Les autres sont pas mal non plus. Dieu est actif dans notre méditation. Ce n'est pas simplement nous qui réfléchissons. Et les hommes de la Bible le savent bien. Toujours le psaume 119, verset 18, le psalmiste dit « Ouvre mes yeux », il parle au Seigneur, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et d'ailleurs, Dieu s'était engagé et il avait dit à Jérémie, chapitre 31, « Après ces jours-là, hein, c'est une promesse, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'inscrirai dans leur cœur. » C'est Dieu qui fait cette promesse. Et puis on a ces deux textes dans les épîtres de Paul. Romains 12, verset 2. Laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. C'est quelque chose, on est passif. Tout ce que Paul nous dit, c'est ne l'empêchez pas. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez-vous transformer. Et ce passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 17, c'est une prière. Paul dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Je demande que Dieu vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance, la glorieuse richesse de l'héritage, l'extraordinaire grandeur de la puissance, beaucoup de choses qui sont à comprendre, à saisir pour nous. Que notre intelligence soit illuminée. Et qu'elle soit illuminée par qui ? Par l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui change nos pensées ? Qu'est-ce qui nous permet de discerner ce qui plaît à Dieu ? Qu'est-ce qui nous donne sagesse et révélation ? C'est Dieu lui-même. Plus précisément, le Saint-Esprit que Dieu place en nous. Il met sa loi, il l'écrit dans notre cœur, il nous donne l'intelligence nécessaire pour la comprendre et pour l'aimer. Alors, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça que Paul incite les Romains, les Éphésiens, à se laisser faire. Ça ne se fait pas sans effort. Et nous-mêmes, nous sommes encouragés à pratiquer, à nous appliquer dans cette recherche. Alors, nous méditons sur la Bible et sur d'autres choses, nous méditons seuls ou en groupe, nous méditons grâce à Dieu et principalement au Saint-Esprit qui est dans notre cœur, mais nous méditons sur quoi ? Pourquoi ? C'est Dieu qui est la cible de notre méditation. C'est ce que nous venons de lire dans l'Épître aux Romains ou dans l'Épître aux Éphésiens. Que cherchons-nous à saisir ? Ne pas s'égarer. Savoir ce qui est bien et mal. Vous vous souvenez le psaume que je vous ai lu tout à l'heure ? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Savoir se comporter comme Dieu le souhaite. Et plus largement, comprendre le plan de Dieu, ce qui lui plaît, non pas pour nous tout seuls, mais pour l'humanité. Connaître Dieu dans le but de l'aimer toujours davantage. Je rappelle que aimer le Seigneur, c'est le seul commandement, avec « tu aimeras ton prochain », que Jésus a cité, enfin pas le seul, mais comme étant le plus important. « Tu aimeras le Seigneur ». Comment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Et finalement, avoir une relation personnelle avec Dieu. Comment avoir une relation personnelle avec quelqu'un si on ne lui laisse pas le temps de nous parler ? Le temps de la méditation. Bonjour. Le temps de la méditation, c'est le moment où le Saint-Esprit, en utilisant une base qui est la même pour tous, la Bible, va nous parler à chacun de nous et va nous dire ce qu'il attend de nous. Va nous permettre aussi d'éprouver, de ressentir une relation personnelle, une compréhension personnelle de ce qu'il attend de nous. Donc, arrivé à ce point, je vous propose cette définition de la méditation biblique. Méditer la Bible, c'est réfléchir avec le secours du Saint-Esprit à ce qu'elle affirme, à ce que cela implique pour nous, afin de renforcer notre amour pour le Seigneur et notre compréhension de ce qu'il attend de nous. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que nos contemporains comprennent la méditation. Pour les gens qui nous entourent, quand on parle méditation, on parle plutôt de choses d'origine orientale qui s'inspirent de traditions bouddhistes. Alors, on trouve des livres comme « La méditation pour les nuls » ou « L'art de la méditation » par Matthieu Ricard. Dans tous ces livres, les auteurs insistent pour dissocier la méditation des convictions religieuses. Ils appellent ça de la méditation laïque. Il est dit qu'on peut très bien s'approprier les méthodes de la méditation orientale tout en conservant la foi de son choix. Et pour ces auteurs, cela permettrait même d'approfondir sa foi. En réalité, ces techniques de méditation sont bel et bien le reflet d'une religion. Et leur but et leur méthode ne sont pas forcément conciliables avec le point de vue biblique. Alors, les étapes de la méditation orientale, c'est d'apaiser progressivement le tourbillon des pensées en utilisant diverses techniques, par exemple des mantras, des phrases ou des onomatopées qu'on répète, pour obtenir le calme mental. Et ainsi pouvoir contempler la réalité ultime. Et cette réalité ultime, c'est la nature de notre propre esprit. Ils appellent ça la vision pénétrante. Pour certains chrétiens, cette vision des choses peut même aider la foi chrétienne. Et il existe de nombreux ouvrages ou des sites internet qui vantent cette approche. Je vais trouver cette photo là, d'un site qui se dit de méditation chrétienne. Je ne sais pas si le cadre vous paraît très chrétien, mais voilà. Attention à ne pas mettre sous les mêmes mots des choses très différentes. La méditation orientale est un voyage intérieur dans lequel on aspire à se transformer soi-même. Elle s'appuie sur des techniques de respiration et elle cherche à trouver un trésor enfoui au fond de soi-même. Et ce trésor, c'est souvent sa propre nature, sa propre personnalité. Ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. J'aimerais conclure. Deux exemples de méditation. L'un est tiré de la Bible, le psaume 73. L'auteur cherche à comprendre pendant tout le temps de ce psaume pourquoi les méchants réussissent. c'est sans problème. Et il arrive au verset 16 et il dit, après avoir décrit la façon dont les affaires des méchants sont prospères, il arrive au verset 16, il dit, « Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. » Un problème insoluble pour notre psalmiste qui n'a trouvé sa solution que le jour où vraiment il a médité sur la parole de Dieu. Tant qu'il s'est limité aux constatations du quotidien, il ne trouvait pas de réponse à sa question. L'autre exemple, il est ici dans cette salle. Combien de personnes sont ici tous les dimanches et trouvent important de venir ici alors qu'il y a quelques années, un tel comportement leur aurait semblé incompréhensible. Pour que ça arrive, il a fallu que ces personnes aient un contact avec la parole de Dieu, mais pas seulement un contact comme ça, une méditation, une réflexion qui a entraîné des changements de comportement. La méditation de la parole. Donc, quelques phrases pour terminer. Donc, contrairement à la pensée orientale, la méditation biblique n'est pas un moyen de faire le vide. Même si ça demande un peu de calme autour de soi, c'est sûr. Mais un moyen de faire le plein. Le plein du Seigneur. Elle ne consiste pas en un effort farouchement individuel, mais en la mise en œuvre d'une réflexion basée sur la Bible, stimulée et permise par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a cette grande flamme là. Et puis la petite colombe. Elle n'a pas pour objet, la méditation biblique, de chercher en soi la nature profonde de l'esprit humain, mais de comprendre le monde tel que Dieu le voit, et surtout de comprendre Dieu et de l'aimer toujours plus. Je vous lis cette phrase d'un pasteur qui s'appelle Francis Chan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Dieu oublié ». Il parle du Saint-Esprit. Et il dit dans ce livre « L'art de s'arrêter ». De se couper de toute distraction de ce monde pour écouter est une discipline spirituelle. C'est en pratiquant ce art, cette attente, que nous pouvons vivre une intimité et une relation profonde avec le Saint-Esprit. Voilà la méditation.